Nous y voilà pour cette première émission Mot de passe. Un brin filou cette désignation. À juste titre, elle évoque une foultitude de choses à chacun. Par exemple, le mot de passe pour accéder à mon compte numérique, le sésame pour entrer dans un temple secret, la clé de l'énigme salvatrice qui sauvera l'univers d'un désastre imminent. Sans le mot de passe, pas d'accès au passage vers un autre ailleurs. Cet autre ailleurs n'est autre que la succession de mots qui crée des phrases qui elles-mêmes font des textes, des rédactions, des manuels, des scénarios, des manuscrits, des exégèses, des herméneutiques, puis prosaïquement, des livres. Ah, enfin, je l'ai dit, on va parler bouquins, mais pas seulement, de la BD, de bonnes histoires et de bons lieux où il fait bon d'aller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de RTVFM. Nous allons passer un bon moment ensemble avec des nouvelles chroniques, au détour d'une rencontre, une personne, un lieu, un livre qui nous permettra de découvrir ou redécouvrir et mettre en valeur un lieu consacré aux idées, à la lecture, aux livres et le plus qui va faire la différence. Tout à portée de vue de notre Mont Ventoux. Cas d'école, notre deuxième chronique qui a trait aux livres scolaires, au choix d'un enseignant, de français ou autre, ou simplement les recommandations du bulletin officiel de l'éducation nationale. Notre autre chronique, l'actualité littéraire, locale et davantage, et le livre, la BD, la pièce du mois pour notre dernière chronique. Au détour d'une rencontre, il s'agit donc d'une personne, d'un lieu, un livre. C'est en suivant le plan découverte offert par l'Office du tourisme que l'on serpente à travers cette ville ancestrale et multiculturelle de Carpentras, au passage de la Porte d'Orange, en suivant la rue Porte de Monteux, en angle de rue, une façade jaune citron nous éblouit. Et c'est parti pour une rencontre des plus lumineuses à la librairie Galerie Gulliver.
Au détour d'une rencontre.
Donc, nous sommes en direct de la librairie Gulliver, 4 rue Porte de Monteux, à Carpentras. Un lieu, une personne, un livre. Donc, on va commencer par la personne qui va se présenter à nous. Bonjour.
Bonjour. Alors, moi, c'est Céline. Je suis arrivée sur Carpentras il y a un an. Voilà. J'arrive de Nantes et j'ai repris la librairie il y a trois semaines parce que, du coup, c'est un lieu qui a été ouvert par ma belle-mère. Qui est partie à la retraite. Et donc j'ai pris la suite. Donc ça fait des mois qu'on prépare la transition et là ça fait 3 semaines que je suis aux manettes.
Oh là là, c'est un acte courageux. Comment vous êtes venue là, de Nantes jusqu'à Carpentras pour arriver à la librairie Gulliver ?
Par amour. mais c'est ça, hein, du coup je suis mariée avec Baptiste. Donc bah, voilà, avec Baptiste, on se connaît depuis des années et voilà, le fait que lui habite à Carpentras, il est carpentracien depuis 30 ans. Et bah, Nantes-Carpentras, c'est bien, mais c'est long. Et donc on s'est dit l'année dernière que ça pourrait être bien de vivre ensemble au soleil. Je suis venue ici plusieurs fois, je suis tombée amoureuse. Alors je suis tombée amoureuse de la région et de la librairie à l'époque aussi. Donc bah, voilà, je suis arrivée, on s'est mis à vivre ensemble. Et du coup, en vivant ensemble, on a un amour partagé des jeux de société. Donc au départ, l'investissement dans la librairie, c'était au premier étage où on a monté un bar à jeux l'année dernière. Et puis bah, en cours d'année, on a dû faire des travaux. Donc on a dû fermer le bar à jeux. Et du coup, Elisabeth, donc, l'ancienne propriétaire de la librairie, nous a annoncé son départ à la retraite. Et avec un lieu aussi magnifique que le lieu qu'on a, et bah, toutes ces bandes dessinées, tous ces projets potentiels autour de la librairie, on s'est dit que ce serait dommage de la laisser à quelqu'un d'autre. Et donc, avec Baptiste, on s'est dit qu'on la reprenait.
Attendez, expliquez-moi. Moi, je pourrais prendre en 3 semaines une librairie comme ça. Mais comment vous avez fait pour reprendre cette librairie ? Vous avez des compétences. Alors, on entend des bruits un petit peu autour de nous parce que justement, on est dans la librairie Gulliver, qui est un petit peu en chantier, mais elle va nous raconter. Donnez-nous votre prénom.
Céline.
Voilà. Céline. Alors racontez-nous un petit peu comment on peut arriver en 3 semaines à reprendre une librairie. C'est un parcours.
Oui, alors moi j'ai travaillé longtemps dans les centres de relations clients comme responsable d'équipe et chef de projet. Donc j'ai fait pendant 10 ans de la gestion, de la mise en place de nouvelles activités, de la formation. Donc il y a plein de compétences comme ça qui sont transverses et qu'on a pu appliquer dans la reprise de la librairie, notamment la gestion. Après, l'amour des livres et l'amour des BD, ça, je l'ai depuis très, très longtemps. Enfin, mon mari est auteur de bande dessinée.
Alors, qui c'est ce mari qui est auteur de bande dessinée carpentracien? Ça nous intéresse, nous.
Donc, c'est Baptiste Corteggiani, Bonaventure. Donc, lui, pour l'instant, a publié des œuvres jeunesse. On est sur des BD d'aventure un peu fantastique. Mail, l'archipel sans étoiles, d'ailleurs. On va faire de la pub, tant qu'à faire. Son père aussi est un auteur de bande dessinée carpentracien. Donc, on a François Corteggiani. Donc, voilà, l'amour est de la BD, c'est déjà une histoire de famille chez eux. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais fondé une association de dessinateurs amateurs. On faisait un fanzine, on faisait des animations dans les quartiers de la ville, autour de la BD aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est depuis longtemps. Et puis alors la reprise de la librairie, officiellement, ça fait 3 semaines que j'en suis gérante. Maintenant, ça fait presque 1 an que je travaille avec Elisabeth, qui me montre aussi, voilà, qui m'a montré les rouages du métier, qui m'a appris un petit peu comment on gérait la librairie, qui m'a introduite auprès de tous les partenaires aussi, les éditeurs, les fournisseurs, les bibliothécaires. Et puis, Elisabeth reste aussi à côté, puis ça reste un bon relais en cas de besoin. Je suis pas toute seule non plus pour reprendre.
Donc, Elisabeth, c'est donc c'est celle à qui vous reprenez la librairie. Donc, si je comprends bien, c'est aussi votre belle-maman. Et Elisabeth, elle œuvrait depuis combien d'années dans cette librairie ?
Bientôt 30 ans. Elle a fondé la librairie avec des amis à l'époque, il y a 30 ans. Donc, quand ils sont arrivés à Carpentras, eux, et on fête les 30 ans de la librairie, du coup, avec Elisabeth, le 19 octobre.
Ouh là là, il va se passer plein de choses le 19 octobre. Racontez-nous le 19 octobre.
Alors, on a invité une dizaine d'auteurs qui sont essentiellement des amis d'Elisabeth et de François, puisque c'est aussi les 30 ans de la librairie et les 30 ans de ces deux personnages qui ont monté et qui ont soutenu la librairie toutes ces années. Donc, une dizaine d'auteurs qui seront présents toute la journée en dédicace et en rencontre. Des animations pour les enfants. Et puis le soir, on va faire un grand apéro partagé pour tout le monde, clients, fournisseurs, bibliothécaires, partenaires, amis, inconnus. Enfin voilà, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir la librairie et puis d'accueillir les gens et de faire la fête. Parce que 30 ans, ça se fête.
Donc si je suis cliente de la librairie, peut-être que je pourrais être invitée à cet happening qui aura le 19 octobre.
Ah bah oui, de toute façon, on n'a pas encore fait de la communication officielle. Pour l'instant, on travaille sur la com, mais d'ici une semaine, on va lancer les invitations. Et c'est vraiment un événement, même le soir, qui est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est vraiment, on est fiers de l'endroit, on est fiers de ce qui a été fait, on est fiers de ce qu'on va présenter dans les mois et les années à venir. Donc on fait la fête tous ensemble.
Alors moi, quand je suis venue la première fois vous rencontrer, je suis arrivée dans la librairie, qui est un petit espace confiné, mais très très joli, un peu à l'ambiance Harry Potter. Et là, je suis dans un espace qui est extraordinaire, et vous allez me détailler un petit peu cet espace-là, parce que là, c'est vraiment une grande surprise, et une belle surprise.
Alors, on est dans la galerie. Donc derrière la librairie, on a une galerie qui nous sert justement pour pouvoir exposer. Donc en ce moment, on expose Didier Zuilly, qui est l'auteur de Varsovie. Qui est aussi un réalisateur de films documentaires et qui était présent dans le cadre du festival du film israélien, le festival Laissez-Passer. Donc voilà, on accueille des artistes, des expositions. C'est aussi un espace où on va faire les rencontres, les soirées. On a des ateliers, des spectacles qui sont faits dans ce lieu parce qu'il est, il est beau. On a des vieilles poutres en bois apparentes. On a une résonance qui est assez agréable. On a un grand escalier avec un puits de lumière. C'est plutôt lumineux. Voilà, c'est notre galerie.
Alors, cette maison, vous arrivez à nous situer un petit peu dans le temps, depuis quand elle date? Parce que je vois cet escalier-là qui est magnifique. Vous avez une petite notion du temps où Elisabeth peut-être...
Elisabeth peut-être, avant, c'était... Alors, cette partie-là, donc, était... Il y avait la librairie qui était un immeuble, et ils ont rattaché 2 immeubles pour pouvoir avoir justement l'espace galerie et derrière le premier et le deuxième étage. C'était un atelier de tanneur. Donc, on a même conservé... les poutres en fer où l'ancien commerçant étendait.
On se demande bien qu'est-ce qu'ils ont pu tanner à Carpentras, ça nous a plu.
Je sais pas du tout. Là, j'avoue, je sais pas. On a la cave aussi en dessous, donc on a un chouette lieu.
S'il y a des auditeurs qui peuvent nous renseigner sur la tannerie de Carpentras, ça nous intéresse. Donc, on a un petit peu parlé de Céline, la personne, le lieu. Peut-être qu'elle a d'autres choses à nous dire sur la librairie. Nous dire la spécificité de la librairie, parce que je crois qu'on n'a peut-être pas assez accès là-dessus.
Ah, c'est une librairie qui est spécialisée en bande dessinée. Donc, bande dessinée, manga, album de voyage, jeune, adulte. Voilà, on est vraiment bande dessinée.
Donc ça, c'est un peu extraordinaire parce qu'on ne trouve pas énormément de librairies spécialisées en bande dessinée.
Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à Avignon. Mais c'est vrai que sur la région, voilà, on n'est pas nombreux. Ce qui est plutôt bien aussi, du coup.
Oui, ça crée une exclusivité.
Oui, voilà, c'est ça. On va proposer aussi quelque chose. Et puis, on peut se permettre voilà, d'avoir notre stock. Puis, de proposer quelque chose qui est un peu différent aussi.
Mais alors, à Carpentras, il y a beaucoup de lecteurs de bandes dessinées ?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais.
Et quelle génération vous avez ?
Ah ben, on a tout. Ça va de l'enfant. Ben, c'est comme les jeux, hein. C'est de 7 à 77 ans, voire plus si affinité, parce que du coup, la BD, c'est un peu comme le film, le roman. On a vraiment de tous les supports, de toutes les histoires sont racontées, de la fiction à la réalité. Et puis ça, de plus en plus, que le manga arrive de plus en plus, ça se généralise et libéralise de plus en plus. Donc on a énormément de clients. Et puis il y a Carpentras, et puis il y a tout autour aussi.
Alors, moi, l'objectif de mon émission, c'est être très ambitieuse, puisque c'est d'essayer d'amener les gens vers la lecture. Et la lecture, c'est pas forcément le livre sans images. Donc, je sais que vous avez donc une enfant de 9 ans. Comment vous encourageriez les gens, les enfants, à la lecture, avec ou sans bulle ?
La lecture, c'est avant tout un plaisir, je pense. Alors après, il y a la partie école où on nous fait lire des œuvres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais même pour les enfants, je pense que ce qui est important, c'est aussi le livre-objet. Donc il faut que la couverture nous plaise, il faut que l'amour de la page soit agréable aussi. Je sais que sur les enfants, même à la librairie, bah, y a un livre, ça se touche, ça se regarde aussi avant de l'acheter. Les petits, il y a des livres en carton, après on peut les accompagner aussi. Mais voilà, je sais que ma fille, ça a été ça dès le début, hein. Voilà. Le livre, il se regarde, il s'admire, voire il se sent qu'on est sur des vieilles éditions avec un vieux papier, une couverture en cuir, de l'encre. Et voilà, il faut vraiment que ce soit un plaisir. Il faut se laisser guider comme ça entre les rayons.
On y vient justement à la tannerie, vous avez dit en cuir qui recouvre le livre. Voilà, on y est arrivé. Internet vous a fait du mal ou vous faites du mal et casse le rapport avec la littérature ?
Ça doit être un moyen complémentaire. Après, la vente sur Internet. Forcément, on va avoir des concurrents dont on ne citera pas le nom. C'est dommage, ça casse le lien, ça casse la proximité. Après, on arrive aussi à créer de la proximité. Disons qu'on va avoir dans une librairie, qu'elle soit spécialisée en bande dessinée, que ce soit une librairie générale, c'est aussi des gens qui aiment lire ou qui vont avoir peut-être un œil, un conseil, une discussion qu'on n'a pas sur Internet. Sur Internet, on va être juste sur de la consommation certainement ou sur de la rapidité. Mais après, c'est pareil, un livre qui arrive, une commande, bah, on apprécie aussi le temps. C'est comme un voyage. Si le livre n'est pas disponible tout de suite, le temps, bah, c'est aussi l'attente, c'est aussi l'excitation de recevoir le livre plutôt que de commander rapidement. Et puis, bah, c'est comme pour n'importe quel commerce. Je pense qu'on a tous à gagner sur des commerces de proximité aussi, dans cette relation avec la personne, dans l'expérience, dans la qualité de ce qui est proposé.
Je suis d'accord avec vous. Puis ça fait vivre un centre-ville qui est magnifique de Carpentras et qui se remet en valeur. Alors, la troisième question et le titre de la chronique, c'est aussi un livre. Alors, un livre, on va mettre en avant la BD. Pour vous, quelle est la BD de la rentrée ou la BD du mois que vous avez envie de mettre en avant ? Et je sais, c'est très, très difficile, mais il faut le faire. Pas le choix, Céline, pas le choix.
Il y en a plein.
Qu'un seul ?
Un seul ?
Allez, deux.
Allez, le premier, c'en est un que j'ai lu il y a ce week-end, que j'ai adoré, enfin moi qui me fait beaucoup rire, c'est Voltaire très amoureux. Donc c'est un second tome, il y avait Voltaire amoureux, Voltaire très amoureux, bah, c'est les péripéties de Voltaire, enfin la péripétie de la vie amoureuse de Voltaire. Le dessin est léger, il est beau, l'histoire reste drôle. On a des tirades de Voltaire, donc on a aussi, on a le plaisir de l'œil dans les dessins, et puis on a aussi le plaisir du langage, parce que ben on va retrouver le langage de l'époque. On est aussi sur, donc c'est Voltaire qui rencontre une jeune scientifique qui elle se prend d'amour pour les théories de Newton, donc on va avoir des extraits de la théorie de Newton qui s'oppose à Descartes, et Voltaire qui est dans, c'est l'époque de la vie de Voltaire où il est en train d'écrire ses critiques. Donc voilà, oui.
C'est le siècle des Lumières, hein, pour recontextualiser, puisqu'on va avoir aussi une chronique cas d'école pour les élèves. Donc c'est très très bien ce choix-là, c'est vraiment du hasard, je tiens à le préciser.
Mais Voltaire très amoureux, voilà, c'est beau, c'est léger, c'est enlevé, c'est très bien écrit, et c'est vrai que c'est très très agréable. Donc Voltaire très amoureux, je le conseille.
Pouvez-vous nous dire plus quel est l'auteur ? Elle va le chercher. J'en profite juste pour dire que le château de Voltaire se visite à Ferney-Voltaire pour l'avoir visité. Il a été restauré, c'est vraiment un lieu extraordinaire que je conseille aux enseignants pour les classes pas forcément de français, de philo aussi, pour visiter une architecture, pour visiter un lieu, et puis mise en évidence des grands textes, des grandes paroles, des grandes pensées de Voltaire. Donc Voltaire, c'était bien le siècle des Lumières, et Céline est allée nous chercher la BD pour nous en préciser un petit peu. Ah oui, en plus... Alors comme elle dit, effectivement, la couverture extraordinaire, on est vraiment dans du toucher, dans du sensitif. Hein.
Donc c'est publié par les Arènes BD de Clément Aubrerie. Voltaire très amoureux.
Là, c'est difficile à la radio de préciser les images, mais la BD, c'est vraiment un monde à part. Il y a de l'image, il y a du texte. Ça me fait penser à des amis qui ont du mal à regarder les films en version originale, parce qu'ils ont du mal et à lire et à regarder l'image. La BD, c'est un petit peu ça. Mais justement, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plusieurs lectures, contrairement à un film qu'on va voir au cinéma. Qu'en pensez-vous, Céline ?
Ah oui, moi, la BD, je la lis en... je l'ai lu deux ou trois fois. Hein. Selon que ce soit le dessin qui m'ait interpellé ou l'histoire... Ça m'arrive de lire très vite une bande dessinée parce que je vais être sur le texte. Et après, je vais revenir pour relire les images. Et ensuite, éventuellement, je vais compiler les deux dans une troisième lecture où je vais d'abord m'attarder sur le dessin. C'est l'avantage avec la bande dessinée, c'est qu'il n'y a pas de schéma de lecture. On lit comme on a envie. Si on saute une case, on saute une case. Si on saute des détails, on peut sauter des détails et revenir après. C'est sa lecture pour soi. On n'est pas obligé de regarder, de lire... On peut sauter des lignes, ce qui est l'avantage d'une bande dessinée et pas forcément d'un roman. Donc voilà, on fait bien comme on veut parce que l'intérêt, c'est d'y prendre du plaisir, je pense.
Vous avez entendu la phrase « on fait bien comme on veut », c'est vraiment la littérature, la lecture de la liberté. Moi, ça me donne envie hein, quand vous en parlez, Céline. Alors, elle est un petit peu maligne parce qu'elle est revenue avec un autre ouvrage dont elle va nous faire part.
Donc le deuxième, c'est une bande dessinée enfant. On est sur un public de 8 à 12 ans. C'est May et le trésor du roi musicien. Donc c'est le deuxième tome d'une série pour enfants, écrit par Bonaventure et publié par Sarbacane. C'est l'histoire d'une petite fille, une harpiste, qui se retrouve alors dans le premier tome dans un monde où la musique a été bannie, dans un royaume où les étoiles ne sont plus là, ont disparu, et qui va se battre avec sa bande de copains contre le dictateur du pays. Donc on est dans des on est entre la mythologie et One Piece. C'est des enfants qui ont beaucoup d'humour et qui vont se balader dans un monde fantastique.
Attendez, vous avez sorti un mot là. Vous avez dit One Piece. Il va falloir nous traduire ça pour nos auditeurs.
One Piece, c'est un manga. C'est un manga. C'est l'histoire d'un pirate et sa bande de copains qui naviguent sur les flots. Et c'est un manga qui a eu énormément de succès, qu'on a encore d'ailleurs.
Pas mal. Alors là, elle donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc là, on est sur une planche de la BD. Bon, on voit bien que c'est une littérature jeunesse, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens sociétaux actuels.
Oui, parce que du coup, voilà, on parle beaucoup de d'interdiction. On parle de après l'idée de la bande dessinée, enfin en tout cas de celle-là, c'est surtout l'aventure. Parce que l'auteur aime beaucoup les aventures, les grandes épopées. Après, voilà, là, ils vont se battre contre la secte du silence, contre un oppresseur. Et c'est vraiment cette idée qu'on retrouve souvent de solidarité, de liberté, de respect.
Non, c'est très riche, ça fait très envie. Je vais peut-être pas pouvoir revenir dans mes 12 ans, donc je vais sûrement le lire. Donc je rappelle, c'est Bonaventure, May, le trésor du roi musicien. C'est une épopée, c'est riche, y a de quoi lire et de quoi revenir dessus, donc c'est pas réservé seulement aux enfants. Et je rappelle son premier choix, donc de Clément Aubrerie, Voltaire très amoureux, alors une littérature plus pour adultes, qui est riche aussi et très intéressante. Et pareil, je crois qu'elle nous a bien vendu ces deux BD, donc à la librairie Gulliver. Alors je vais y poser une dernière question, donc librairie Gulliver qu'on trouve 4 rue Porte de Monteux à Carpentras. La dernière question, c'est... y a-t-il un livre qui a changé votre vie ou votre vision de la vie ?
Alors, c'est pas vraiment un livre. C'est avant tout des poèmes. C'est vraiment le Rimbaud, quand j'étais jeune, du coup. Notamment le bateau dans la tempête, le bateau ivre, et puis les voyelles. Moi, les voyelles ont complètement transformé ma vision du monde.
Et... Dites-nous en plus sur comment ça a perturbé, ça a modifié votre vision du monde.
Parce que ça a été un peu, moi je l'ai lu comme on regarde un tableau qui va tout de suite nous engloutir. Et je me suis plongée dans Rimbaud où j'ai découvert, notamment sur les voyelles et bateaux ivres, des images et une puissance dans les mots. Où je me suis écartée d'un coup, l'histoire, enfin, la lecture était plus simplement une histoire qu'on me racontait et où j'étais spectatrice avec un peu de distance. Et je me suis retrouvée plongée dans l'univers de Rimbaud, où je pensais Rimbaud, je voyais, je ressentais ce qu'il pouvait partager au travers de ses poèmes. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où la lecture est devenue, en tout cas chez moi, une bonne partie de ma vie.
Et à quel moment vous avez lu des poèmes de Rimbaud en termes d'âge ?
J'étais en primaire, sur les premiers. J'étais en primaire. Après, j'avais un grand-père qui était féru de littérature. Alors, la littérature, dans tous les sens du terme, hein. Il y avait autant de la science-fiction cachée au fond de l'armoire que de la bande dessinée, que des livres classiques. Il m'a fait lire Jules Verne très tôt. Et pareil, on s'embarquait tous les deux sur des grandes aventures. Mais en primaire, oui, pareil, dans les rayonnages, en passant, en regardant, j'ai pris, j'ai lu, et puis un mot parle, et puis dans les voyelles, c'est ça, comme il a décidé, il est très jeune, il décide de révolutionner la langue française, et donc voilà, on donne une lettre, une couleur, une image, et puis on peut jouer avec les mots, on peut jouer avec les phrases, et d'un coup on se rend compte aussi du pouvoir et de l'importance des mots.
Bah, beaucoup, vraiment merci Céline, c'était très beau, très émouvant, je suis ravie de cet entretien. Je rappellerai dans la chronique actualité toutes les actualités de la librairie Gulliver. Je remercie encore Céline. Et est-ce que vous avez un dernier petit mot pour clôturer cette chronique ?
N'hésitez pas à passer, ne serait-ce que pour regarder et pour voir. On a à peu près 3000 références, je pense, en boutique actuellement. Autant sur des petites maisons d'édition, sur de l'indépendant ou sur des grandes maisons d'édition. Voilà, la BD n'a pas d'âge. Et vous êtes les bienvenus à la librairie, puis merci.
Merci beaucoup Céline, c'est vraiment un lieu que je découvre avec grand plaisir. Et j'encourage évidemment les Carpentraciens à venir, mais pas seulement. Pourquoi pas passer un petit week-end à Carpentras ou faire un petit détour, il y a tellement de belles choses à voir à Carpentras. Très très belle ville.
C'était Au détour d'une rencontre, une personne, un lieu, un livre, à la galerie Librairie Gulliver, 4 rue de Monteux à Carpentras. Et je remercie Céline pour cet accueil très chaleureux. Nous allons passer maintenant à notre chronique Cas d'école.
La chronique Cas d'école.
Recommandée dans le bulletin officiel de l'éducation nationale pour les classes de première générale et technologique. Qui n'a pas entendu parler de la princesse de Clèves ? Lu, non, mais oui dire sûrement. Diantre, une œuvre parue en 1678 d'un auteur alors totalement anonyme. Qui n'ose pas mettre son nom sur une première de couverture ? Stephen King utilisait ou utilise encore des pseudonymes. Le plus connu, Richard Bachman et John Swinton, récemment dévoilés. L'objectif est alors de séparer les genres pour ne pas brouiller les pistes. Stephen King doit rester le maître de l'effroi. Bon, j'ai fait un grand écart entre l'auteur de La Princesse de Clèves et Stephen King. On revient au siècle des Précieuses. Il y a 341 ans. Ouh là là, ça fait drôlement loin. Parce que oui, on est dans la mouvance des Précieuses, dans la société galante et du classicisme. Kesako, les Précieuses ? Molière les nomme les Ridicules, dans sa pièce Les Précieuses Ridicules. On rit de la farce que jouent les valets à des pins prenelles imbues de préciosité. Il donne le ton, mais n'oublions pas le fond. Ces dames du XVIIe siècle en ont assez de la rustrerie de ces hommes. L'aristocratie doit briller autrement que par les armes. Elles imposent un style, une langue, une écriture. L'esprit doit briller en société et les femmes reprendre toute leur place. La princesse de Clèves en est une représentation. Elle met en scène les salons littéraires qui ne sont autres que des réunions de partage d'idées et lieux où les esthètes du moment, peuvent s'exprimer, ce sont les dames qui tiennent salon. Elle met en évidence une société totalement sous le joug de la magnificence du roi soleil, Louis XIV, de ses fastes et débordements, de ses intrigues de cour, de l'urbanité que va créer la cour centre du monde, des retraites au couvent, à la campagne, pour notre princesse de Clèves. Qu'oblige l'excès et l'immoralité ambiante ? La princesse de Clèves est une véritable sitcom, un Friends version XVIIe siècle. L'auteur se cache non sans une immense fierté de voir son ouvrage faire tache d'encre dans les cercles littéraires. On va couper parce que les cercles, ça ne fait pas.
Tu retouches pas ?
On retouche pas ?
Tu l'as dit, cercle littéraire, on retouche pas.
D'accord. On parle, on cherche à identifier les protagonistes.
Mais il est bon de rester caché, parce que l'écrivain est un travailleur qui se fait payer à la tâche. Et dans la haute société, travailler n'est pas très précieux. Contrairement à notre Stephen King, qui change de nom pour se détacher d'un style, c'est la puissante Madame de Lafayette qui est l'auteur de ce roman. Copine de notre épistolière Madame de Sévigné, qui séjourna et mourut pas loin de chez nous, au château de Grignan. Elle aussi, témoin d'une époque où le faste coule à flot dans ses correspondances avec sa fille. Revenons à notre ouvrage. La lecture n'est pas dans le style grand corps malade. Ce n'est pas hyper simple à lire, pour nous autres du XXIe siècle. Néanmoins, on comprend aisément. Il faut juste s'adapter aux termes précieux. Et ça ne nous fait pas du mal en ces pauvres temps de mots. Mots, je vais appeler M-O-T-S et M-A-U-X. Alors, vous allez le lire en entier, cette prose écrite par une dame du XVIIe siècle, 3 siècles et demi passés. C'est une machine à remonter le temps d'une centaine de pages. Ça ne fait même pas peur. À votre lecture. Et sans transition, on va passer à Contact de Brigitte Bardot, parce que c'est notre premier contact.
Météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix. Rejoins mon amour dans la galaxie. Contact. 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 Contact.
L'actualité littéraire.
À vos agendas, pour rappel, l'actualité de la galerie Gulliver fête ses 30 ans de vie, 30 ans de BD carpentracienne, le 19 octobre 2019, 4 rue Monteux à Carpentras. Il y aura de l'expo de planches originales, des scénaristes, des dessinateurs, Pierre Dubois, Christophe Alvez, Lelé Vianello, partenaire de travail d'Hugo Pratt, Stéphane Milot, Antoine Ozanam, Frédéric Sterck, Olivier Boza, Michel Faure, Hervé Manco. Une journée, une soirée pleine de bulles. Petit rappel, exposition incontournable, Bête de Seine à Lille-sur-la-Sorgue, à la Fondation Villa d'Atrice. Mon coup de cœur expo, Ecce Homo d'Ernest Pignon-Ernest, sur ses interventions de 1966 à 2019 dans la Grande Chapelle du Palais des Papes d'Avignon. On y voit des images, des esquisses, des dessins, des souffrances sociétales. Petite dernière info, les ateliers du Bistrot Gourmand qui attaquent aussi le 19 octobre. Inscrivez-vous directement au bistrot. Et pour suivre, notre dernière interview au détour d'une rencontre.
Alors, nous voilà au Bistrot Gourmand, 17 rue des Halles à Carpentras. C'est une belle découverte, déjà au niveau de l'odeur. C'est plutôt sympathique et en plus, on est entouré de livres. Mais je vais laisser la parole à Jessica et Mélissa qui vont se présenter et nous faire un petit tour de leur petite galerie, leur petit bistrot littéraire. Alors, je commence par Mélissa. Mélissa, si vous pouvez nous raconter un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours et après, on verra la suite.
Alors, bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans. Je travaille au Livre Gourmand avec ma sœur et on a ouvert ça il y a 2 ans parce qu'on avait très envie de travailler ensemble et d'avoir un lieu qui nous ressemble dans Carpentras. Pour mon passé professionnel, moi j'ai fait des études de gestion d'entreprise et de management et je suis allée travailler dans les jeux vidéo en Bulgarie, donc rien à voir avec la librairie. Et ensuite je suis revenue vivre en France et on a démarré le projet.
Ah oui, joli parcours, quoi. De la Bulgarie à Carpentras, mais vous êtes originaire de Carpentras ?
Oui, oui, on est né à Carpentras, on a fait toute notre enfance ici.
Ah oui, beau parcours, quoi. Du management aux jeux vidéo à Bulgarie et revenir à Carpentras, intéressant. Donc alors du coup, c'est deux sœurs, on découvre, donc après Mélissa, la sœur de Mélissa.
La gentille sœur. Nous, on dit souvent ça, bon, ça fait rigoler nos clients. C'est un challenge entre nous deux. C'est moi qui cuisine le mieux, c'est moi la plus gentille. Non.
C'est pas vrai.
Non, moi, je m'appelle Jessica, j'ai 35 ans. J'ai dur, là, c'est dur de se rappeler vraiment de l'âge. Moi, je suis bloquée à 30 ans. moi, je suis libraire spécialisée en jeunesse, mais je suis tombée un peu par hasard dans les livres. C'est venu assez tard chez moi. J'ai travaillé 12 ans dans une grosse structure et j'avais envie de créer ma petite librairie. Et c'est vrai que toute seule, c'était pas facile de se lancer. Et j'ai réussi à aller chercher ma sœur jusqu'en Bulgarie pour lui dire finalement j'ai peut-être un projet. Et voilà, elle m'a suivie.
C'est formidable. Donc, ces deux sœurs, il y en a une plus jeune et une moins jeune. Ça, c'est parce que la plus sympa, elle est un peu plus vieille en fait. elle se retrouve quelques années après pour se dire on va créer une librairie mais un peu spécialisée. Et comment vous avez fait pour arriver à la finalité de ce challenge de créer de cette librairie qui est un peu particulière? Alors laquelle des deux veut répondre? Allez, la plus âgée.
Moi c'est la littérature jeunesse, c'est quand même une passion. J'adore ça, enfin, allez, c'est très très riche, mais quand on est une petite structure, finalement c'est pas évident de pouvoir en vivre. Donc on s'est posé la question un petit peu avec ma sœur de ce qu'on pouvait rajouter à notre librairie pour que ça fasse une entreprise viable. Et ben forcément, comme on est gourmandes toutes les deux, les gourmandises des gâteaux sont arrivées assez vite. Et puis des gâteaux, on a dit non, mais on va faire à manger le midi. Et puis voilà, et ben, ça a fait un gros... Une grosse partie restauration, petite restauration, une partie librairie, et puis ben, on fait des ateliers aussi, des goûters d'anniversaire. Et le mélange de tout ça ben, fait qu'on est ravis et que ça fonctionne bien.
Alors je précise, elles sont gourmandes, mais ça ne se voit pas, elles sont très très belles toutes les deux. Alors est-ce qu'il y en a une qui est plus spécialisée partie gourmandise ou je vais laisser répondre Mélissa?
Alors, on a chacune nos recettes, mais on fait chacune le sucré comme le salé. Mais on a nos recettes préférées, donc il faut bien choisir sa semaine pour avoir les bons gâteaux quand c'est ma semaine.
Donc, vous faites sucré-salé, donc on peut venir manger. Mais alors, attendez, je viens toute seule, ou non, je vais venir peut-être avec ma petite fille. Je viens avec ma petite fille, je mange quelque chose pour le petit déjeuner, le repas du midi, l'après-midi. Et je peux en même temps feuilleter un bouquin. C'est ça l'intérêt ?
Alors oui, nous, on aime bien attirer les enfants, les adultes, les grands par les gâteaux. Et forcément, après, ils tombent amoureux des livres et repartent avec un livre aussi. Donc voilà, c'est parce que parfois, c'est pas évident non plus de pousser la porte d'une librairie. On a toujours peur, si jamais il y a quelque chose qui nous plaît pas, de toute façon, on est toujours gêné de partir sans rien finalement. Tandis que là, c'est plus facile. On se dit, bon, y aura toujours un petit gâteau, un petit café. Et puis, on regarde un peu du coin de l'œil les livres. Et voilà, c'est une démarche qui est un peu plus facile. Après, y en a plein qui poussent les portes des librairies et qui sont très à l'aise, tout ça. Mais voilà, c'est le petit moyen d'attirer et puis de faire découvrir la littérature jeunesse.
Alors, c'est pas bête parce que avant de commencer l'interview, c'est exactement ce qu'on disait, c'est qu'on pense que c'est un petit peu, alors c'est, on va penser, hein, que c'est un peu un cercle fermé la littérature. Par contre, le bistrot, c'est plus aisé de rentrer dans un bistrot. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélissa ?
Ah bah oui, là c'est plus facile de se dire on va prendre un petit café, un petit goûter, un gâteau ou même juste un bonbon parce qu'on a aussi des bonbons.
J'ai pas vu les bonbons mais je regarde un peu plus près. Alors donc là on découvre un petit peu Jessica et Mélissa avec leur parcours professionnel. Mais comment vous êtes arrivée à la lecture, c'est ce qui m'intéresse. Alors, c'est Jessica qui va nous répondre.
Alors, moi, petite, eh ben, j'aimais pas lire. J'aimais pas ça. Et alors, je me rappelle, j'ai dû commencer à lire. J'ai lu un livre, je crois que j'étais en CE2, qui m'avait passionnée. Et je l'ai lu d'une traite et cool, trop contente, mes parents contents. Et puis, c'était tout jusqu'à à peu près 15 ans. Voilà, j'ai plus voulu lire. Voilà.
Vous vous rappelez le livre en CE2? Ah, génial, on veut savoir.
Oui, c'était C'est la vie, Julie, dans la collection J'aime lire chez Bayard. Je ne sais pas s'il existe encore, mais voilà, je l'avais adoré. C'était un petit livre, voilà, lecture facile, super. Et ensuite, c'est vrai que, ben non, plus envie de lire, rejet. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, les enfants, pourquoi, ben, je préférais jouer dehors. Voilà. Et puis, après, par contre, vers 15 ans, au collège, là, je suis tombée sur un livre pareil qui m'a passionnée. Et à partir de là, il y a eu le déclencheur. Et c'était le palanquin des larmes. Je l'ai adoré.
Qui c'est qui a fait la liaison entre cette lecture, avec cette lecture? Vous êtes arrivée toute seule à cette lecture-là ou quelqu'un a été vecteur?
Non, c'était à l'école. Et pourtant, souvent on dit l'école, on a des classiques qui ne donnent pas envie, tout ça. Mais j'étais tombée sur une prof de français extraordinaire qui nous a vraiment fait aimer la lecture. Et on a eu des livres super intéressants à lire. Alors, on les lisait tout seul à la maison, on y revenait en classe, tout ça. Et ce livre-là, mais je l'ai dégommé en, en quelques jours, quoi. Je l'ai adoré et j'ai réussi à... Alors, souvent, voilà, j'avais des petits problèmes de concentration. Donc, je lisais, j'arrivais pas à rentrer dans le livre, je retournais sur mes pages. J'arrivais pas à me concentrer, me rappeler ce que j'avais lu avant. Et c'est vrai que là, j'ai encore des adultes qui viennent me voir, notamment il n'y a pas longtemps, un monsieur qui m'a dit non, moi, j'arrive pas à lire. Et ça m'a rappelé ce qui m'était arrivé. Et je me dis, mais c'est parce que vous n'êtes pas tombé sur le bon livre. Il faut s'accrocher. Et puis, si on ne se rappelle plus la page d'avant, tant pis, on continue. Et en fait, en lisant la continuité de l'histoire, on se rappelle, en fait, ça vient tout seul.
Alors, le livre peut être thérapeutique, puisque vous disiez que vous avez du mal à vous concentrer. La finalité, s'il y a un grand intérêt, vous arrivez à vous concentrer petit à petit. Hein, donc, le livre peut être thérapeutique alors que vous n'étiez pas lectrice.
C'est ça. Et j'ai des enfants dyslexiques aussi, donc super challenge. Donc, voilà, il paraît que c'est héréditaire. Donc, je me dis, à l'époque, on en parlait moins, mais je pense que je l'étais un petit peu aussi. Et voilà, après, à notre époque maintenant, il y a énormément de collections qui sont adaptées. Donc, on a les enfants de notre époque ont beaucoup de chance.
Alors, ce qui veut dire que je peux venir avec des enfants ou des préadolescents, parce que votre littérature, j'ai vu qu'il y a un peu pour plus grand, hein, vous nous direz, peut-être que Mélissa nous le dira. Je peux venir avec mon enfant qui a des petits problèmes de dyslexie et vous allez peut-être me conseiller un ouvrage qui va aider ou accompagner vers la lecture et justement à pallier peut-être à cette problématique de dyslexie, c'est ça, Jessica?
Oui, c'est ça. En fait, la dyslexie, il faut une typographie un peu différente. Des livres, il faut que ce soit écrit bien gros. On peut avoir des codes couleurs. Ça aide vraiment à la lecture. Donc oui, il y a les éditeurs qui font un gros effort là-dessus. On commence à avoir plein de bouquins qui sortent, plein de collections adaptées au 10, donc c'est super.
Alors c'est extraordinaire, je viens boire un café avec mon enfant qui a des petits problèmes de dyslexie, qui n'est pas grave, gravissime non plus, hein. Et en même temps vous me commencez un livre qui va peut-être m'épargner beaucoup de temps chez un spécialiste. Voilà, je trouve ça génial. On va venir.
Ça va pas épargner le temps chez le spécialiste. Hein. Il faut les faire suivre. Enfin, les travaux des orthophonistes, vraiment, il est formidable. Hein. Il faut bien sûr faire les enfants avec une dyslexie décelée. Il faut les faire suivre. Mais voilà, on peut les accompagner avec des livres adaptés à eux.
Voilà, donc c'est un travail des parents aussi. Et puis en plus, c'est très agréable de venir boire un café, un chocolat ou un thé ici. Mélissa, comment vous êtes arrivée à la lecture?
Moi, c'est un peu plus simple quand même. J'adorais les histoires du soir de ma maman. Je les connaissais un peu par cœur. Je savais les fables. J'avais appris la fable de La Fontaine, ma préférée, avant de savoir lire. Donc là, je faisais semblant de la raconter. Et j'ai toujours un peu aimé lire. J'ai toujours dévoré des livres quand j'étais dans l'adolescence et ça s'est pas arrêté. En général, quand j'aime bien un livre, je le finis en 2-3 jours.
Trop bien, trop bien. Vous voyez comme quoi on peut arriver à la littérature. Donc voilà, des bons conseils aussi pour accompagner les parents qui ont du mal à amener les enfants vers la littérature ou même qui eux-mêmes ne vont pas vers la littérature et qui voudraient encourager leurs enfants. Le lieu est charmant, tout plein. Il y a une verrière au-dessus de ma tête qui nous permet de voir le ciel magnifiquement bleu azur de Carpentras. Alors, je suis allée me laver les mains tout à l'heure. J'ai eu du mal à sortir de vos toilettes aussi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, vous allez me raconter comment vous êtes arrivée à créer ce lieu-là, s'il était vraiment comme ça ou si vous avez fait des changements esthétiques ou même de maçonnerie. Jessica, Mélissa, qui c'est qui était chargée de travaux Mélissa, elle va nous raconter un petit peu.
Alors la boutique, ça a été un vrai challenge quand on l'a eu parce que notre local, on l'a eu entièrement vide avec juste une chape de béton au sol, même pas de carrelage, et du placo au mur, c'est tout. Donc après, on s'est occupé avec la famille, les amis et tout ça, puis des artisans professionnels aussi, de monter des toilettes, une cuisine, de faire le carrelage, la peinture, le ponçage. On a fait énormément de choses. On a notre tonton et le mari de Jessica qui nous ont monté toutes les étagères de la boutique, qui les ont faites eux-mêmes. Et on s'est même collé à l'atelier, on a posé du carrelage nous-mêmes par terre. Bon, maintenant on le voit plus trop, mais il y a des endroits qui sonnent creux, nous seuls savons où sont. Mais on a mis vraiment les mains dans le cambouis et on a fait des travaux, beaucoup, beaucoup.
Oui, l'espace est vraiment merveilleux, ne serait-ce que pour voir l'espace, avec un petit café, un petit bonbon, un petit livre. Non, vous avez vraiment créé un très bel espace. Est-ce que vous avez un retour de cette création? Est-ce que vous voyez les Carpentrasiens venir à vous? Vous voyez ça, vous, Jessica?
Oui, oui. Puis nous, c'est vrai qu'on voulait vraiment, alors c'était notre challenge, faire un lieu convivial et chaleureux. Et alors, quand on entend donc nos clients qui nous disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien ici, on est à l'aise, c'est un petit coin cocooning, tout ça, voilà, on est aux anges
!» Mais c'est le cas, hein. Ça donne vraiment envie, c'est vraiment un coin cocooning et on se languit les hivers froids pour revenir s'installer chez vous. Mais l'été aussi, puisque vous êtes situé où précisément à Carpentras?
Alors on est sous les Halles, en face le passage Boyer, donc en plus on a une vue magnifique. Et ben il fait frais sous les Halles, enfin il fait frais, quand on a la canicule il fait quand même chaud, hein, mais, mais on est à l'ombre, on a souvent un petit courant d'air frais. Enfin, courant d'air, hein, l'été il n'est pas frais, mais voilà, on est à l'ombre et protégé du soleil, donc voilà, ça peut être sympa en cas de grosse chaleur. Et bon, on a la clim aussi, hein, et puis l'hiver, ben voilà, on a le chauffage.
Oui, parce que faut préciser, vous avez une terrasse, vous n'avez pas simplement un lieu intérieur, mais une belle terrasse.
Oui, 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 c'était un de nos points qui fait qu'on ne voulait pas passer outre, quoi. Quand on recherche un local, on voulait une terrasse. Pouvoir cuisiner, bien sûr, et avoir de l'espace. On met donc les tables et les livres.
Et si je viens en voiture à Carpentras, moi qui viens un petit peu loin, je vais venir où avec ma voiture, me stationner où et comment je vais faire pour venir à vous?
Alors, on a la coulée verte qui est juste en bas. Donc, c'est vrai qu'on a la chance à Carpentras d'avoir tous les parkings gratuits. Donc, c'est sympa. Après, jour de marché, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que du coup, les places sont bien prises. Mais il y a plein... Après, il ne faut pas avoir peur de marcher un petit peu aussi. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on on a du parking. Je pense qu'il faut encore qu'on en a encore un peu plus. Donc là, la mairie y travaille. Hein. Il y a un parking encore qui se fait, même plusieurs qui vont se faire. Voilà, après, on a aussi... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait tourner les places dans le centre-ville parce qu'on a des personnes qui ne peuvent pas marcher, hein, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Ou même des personnes, même je vois des familles hein, qui ont des bébés en bas âge, il faut que ça dure 3 secondes, enfin 3 secondes je m'entends, mais des fois c'est juste une petite course à faire dans le centre-ville, mais on a les places minutes, donc là elles sont d'un quart d'heure, et on est en zone bleue aussi, donc là on a 1h30 c'est ça de gratuite, 1h30 de stationnement gratuit. Faut surtout pas oublier son petit disque parce que du coup voilà, la mairie fait très attention à ce que ça tourne bien les places dans le centre-ville, donc si vous dépassez on peut avoir un petit PV quand même.
Donc c'est facile d'accès, on peut stationner très aisément à Carpentras, j'ai découvert ce matin je suis sur la coulée, effectivement c'est très simple, un ascenseur, c'est pas compliqué, on n'est pas obligé de marcher des heures, et en plus pour venir ici ça va, on peut faire l'effort, le centre-ville est vraiment magnifique à Carpentras. Évidemment ma question qui fait partie de la chronique, quelle est votre choix littéraire du moment. Alors, c'est pas parce que c'est de la littérature jeunesse qu'on ne peut pas dire littéraire, on est d'accord avec ça. On va commencer par Mélissa, parce que du coup, elles sont deux. Donc du coup, ça nous fait deux choix, hein, censément. Donc Mélissa, votre choix.
Alors j'ai choisi René the Brave de Béatrice Maison. Moi j'aime bien ce livre parce que du coup il est écrit en français et en anglais. C'est une petite histoire d'un dinosaure qui raconte son premier jour à l'école. Sauf que ses parents sont deux oiseaux, donc il va à l'école des oiseaux. Et son expérience est assez intéressante. Donc c'est un livre auto-édité avec chaque page où il y a la partie anglaise et la partie française. Et on a des petites illustrations aussi toutes mignonnes.
Alors oui, elle me fait feuilleter un petit peu. Mélissa, c'est vrai que le livre est dans un schéma tout à fait différent. Et c'est vrai que d'avoir sur la page de gauche, vous avez le texte en français et en anglais. Alors évidemment, peut-être que les enfants ne lisent pas encore l'anglais, mais les parents peuvent donner déjà la sonorité. Avoir déjà le son d'une langue étrangère est important, créer un automatisme. Donc superbe choix. Et puis vous l'avez dit, Mélissa, à compte d'auteur, c'est très bien de sortir. C'est pour les 5-9 ans, hein, visiblement. Pour sortir un petit peu de ces grandes maisons qui ont pignon sur rue. Alors, la frangine Jessica, quel est son choix ?
Alors moi, c'est le Roi aux mille tétines des éditions Baliverne. Pareil, un petit éditeur. Bon, on aime les gros éditeurs aussi, hein, c'est pas le problème. Mais là, du coup, c'est Christos l'auteur et Sylvie Giroire l'illustratrice. Donc voilà, les illustrations sont juste merveilleuses. Et puis, c'est l'histoire d'un roi. Hein, parce que bien sûr, on sait que quand on a des enfants, bah, ce sont nos petits rois. Donc, ils peuvent être merveilleux comme des petits tyrans. Mais on les aime quand même très, très fort. Et là, du coup, c'est un roi qui veut toutes les tétines de la terre. Mais alors, les plus merveilleuses, il y en a vraiment des tétines en or, des tétines en diamant, des tétines... voilà, merveilleuse. Et donc, il cherche ses nounous de trouver à chaque fois les tétines qui lui manqueraient. Donc, il a une collection vraiment très, très riche. Et quand les nounous, parce que caractère de roi quand même, hein, quand les nounous ne trouvent pas de nouvelles tétines, eh ben, elles vont en prison. Donc, voilà. Du coup, ma petite rébellion quand même chez les nounous. Et il y en a une qui est très, très maligne. Vous voyez, les illustrations sont quand même très douces et merveilleuses. Et donc, on a une nounou un peu rusée qui dit, parce que là, le roi, il a quand même toutes les tétines quasi qui peuvent exister. Donc, plus personne n'en trouve et toutes les nounous se retrouvent en prison. Et donc, on a une nounou qui se dit, moi, je serais capable de te trouver une nouvelle tétine, mais il faut que tu me fasses la promesse de quelque chose. Alors, oui, bon, d'accord, je vais faire une promesse. D'accord, de toute façon, il est désespéré, il veut de nouvelles tétines. Donc, il serait prêt à accepter tout. Et donc, elle lui dit, condition, tu mets plus jamais de nounou en prison. Alors, forcément, caractère de roi, il dit non, je ferai pas ça. Et puis, finalement, ok, je cède. Promis, je ne mettrai plus de nounou en prison. Et alors, la nounou lui dit, tu mets plus de nounou en prison, mais aussi, tu me donnes toutes les tétines que tu as, parce qu'il y en a trop. Et si tu veux vraiment la tétine extraordinaire que je te promets, tu me donnes ta collection de tétines, plus la promesse de plus mettre de nounou en prison. Ok. Donc, le roi, il va dans ce sens. Et puis alors, il attend avec impatience sa tétine. Et alors, est-ce que je dis la fin ?
Mais non ! En même temps, on a envie de la savoir, mais non, ils n'ont qu'à venir chez vous découvrir la fin. Par contre, en off, vous me direz la fin, s'il vous plaît. Alors, les illustrations sont très, très belles, il est vrai. Et l'histoire, elle est très prenante, puisque là, j'étais pendue aux lèvres de Jessica. C'était extraordinaire. Merci, Jessica, pour cette découverte qu'on retrouvera au Bistrot Gourmand, évidemment, si vous voulez connaître la fin. Alors, la petite question supplémentaire, c'est y a-t-il un livre, un ouvrage, un poème qui a changé la vision de votre vie, de la vie ? Alors, qui se sent... ou alors, quel a été le livre phare de votre vie jusqu'à maintenant ? Parce qu'il y en aura, j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que finalement, elles sont toutes jeunes. Hein. C'est ce qui crée ce dynamisme aussi. Alors, qui ose se lancer ? Allez, on commence par Jessica.
Moi, il y a un livre. Du coup, c'est dommage, c'était pas en littérature jeunesse, mais après, je lis aussi des livres pour les grands. Hein. Mais il y a un livre qui m'a, et c'était il y a pas très très longtemps, qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Non, il y en a deux. Il y en a un en jeunesse, un pour les grands. Allez, j'en dis deux. J'ai le droit.
Oui.
Donc, il y en a un, c'est Ma Reine. Ma Reine, qui parle d'un petit garçon qui est un peu attardé. Et qui va vouloir, c'est vrai que les parents ont tendance à le couver et à pas lui laisser faire plein de choses que finalement il en serait capable. Hein. Du coup, il va s'échapper de sa maison et puis il va vouloir vivre un peu sa vie. Après, on découvrira si c'était une bonne idée ou pas, mais, euh, Mais c'est vrai qu'il était très touchant. Voilà, ça parle du handicap. Et ce qui est extraordinaire, du coup, avec cet auteur, c'est qu'on arrive, enfin, il arrive à parler avec les mots du héros du livre. Donc, c'est vrai qu'on se met bien à sa place. Enfin, pourtant, c'est pas évident de s'identifier à un personnage comme lui. Mais voilà, une très belle histoire. Et. Bon, il y a plein de livres en fait que j'adore. Là, du coup, ça me fait rebondir sur un autre livre, En attendant Beau Jungle, il était merveilleux aussi. Et puis, donc voilà, là, il y a ces deux livres-là qui m'ont beaucoup touchée. Et un en littérature jeunesse, c'est Le fils de l'Ursari aussi. Donc là, ça parle d'une famille de Rome en fait qui habite d'abord dans son pays et qui va devoir, bah, parce que pas de travail, tout ça, qui va devoir. Pour survivre, vraiment survivre, ben, cette famille va atterrir à Paris. Et donc, en fait, le papa était quand même éleveur d'ours. Donc, à Paris, c'est pas évident à trouver comme emploi. Et en fait, il y a plusieurs membres de la famille qui vont un peu... Il y a le grand frère qui va se mettre à voler pour pouvoir manger et faire nourrir sa famille. Bon, ben, la mère, elle va rester à la maison pour s'occuper de l'intendance, on va dire. Et puis, on a un petit garçon, et là, c'était super chouette, qui va être un peu autodidacte et qui va apprendre. Donc là, on dit finalement, la culture, ça peut aussi vraiment ouvrir les esprits et faire avancer faire changer le monde, avancer les choses. Et en fait, ce petit garçon va apprendre, donc il va regarder des gens dans les jardins de Paris jouer aux échecs, et il va apprendre à jouer aux échecs en fait tout seul comme ça en les regardant. Et en fait, il est super doué. Et après, bah, du coup, il va faire la rencontre de plein de personnes, et puis bah, lui, il va s'en sortir.
Mais elle nous dit un peu la fin quand même. Et On peut être jeune et être passionné de littérature, et là on l'a entendu vraiment dans votre voix, vraiment merci Jessica, elle nous donne envie de lire tous les livres. Et alors Mélissa, son choix.
Alors moi c'est beaucoup plus classique, hein. Un de mes livres préférés c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. J'ai adoré lire ce livre parce que c'était la première fois que je me projetais dans un futur qui n'était pas vraiment réel, mais qui quand même peut arriver. Mais j'ai appris après que c'était un très très vieux livre, donc j'ai trouvé ça super épatant.
Bon, elle dit vieux, pour moi qui suis née en 70, c'est pas si vieux que ça. C'est une dystopie, tout à fait.
Pour moi, c'était un vieux livre. Et il m'a vraiment marquée. Du coup, après, j'ai lu plein de livres dans ce genre-là et je me suis régalée. C'était le premier livre du genre que je découvrais.
Voilà. Donc on est vraiment dans le livre de genre qui revient en force, hein, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, on a Fahrenheit 451, je suis aussi passionnée. Oui. C'est vrai que c'est des visions du monde, voilà, tout à fait, très passionnant. Alors ben, on a fait un petit peu le tour de notre chronique, vraiment vous avez entendu qu'on est super bien accueillis au Bistrot Gourmand, que ce sont vraiment deux personnes magnifiques, très belles, qui vont très bien avec le lieu. Elles sont passionnées, donc... il faut les retrouver 17 rue des Halles à Carpentras. Vous avez des actualités en février, mais on en reparlera. On reviendra pour parler de l'actualité du moment, à savoir qu'elles font des ateliers aussi. Venez vous renseigner. Vous avez une page...
On a une page Facebook, le livre gourmand, c'est facile à trouver. On a aussi un site internet, lelivregourmand.com. Et juste pour les vacances, on a tout le temps plein d'ateliers, mais surtout pendant les vacances.
Alors les prochaines vacances, c'est quand ?
C'est en octobre, du coup, c'est du 19... à partir du 19 octobre, je ne sais plus quand elle se termine. Je vais faire un calcul de tête, là, c'est trop dur.
Trop compliqué, on est le lundi matin quand même, c'est leur jour de pause. Le bistrot est ouvert pour nous rappeler les horaires.
Alors, du mardi au samedi, de 9h à 19h.
Très bien. On y viendra, je vous remercie et j'espère qu'on se verra très bientôt. Merci en tout cas Jessica et Mélissa pour cet entretien à trois ce matin. Merci beaucoup.
Un livre, une BD, la pièce du mois.
Avant d'être un film, Le Chardonneret est un roman à la Dickens, riche, passionnant, qui démarre par un attentat au Metropolitan Museum de New York devant le tableau petit format de Karel Fabritius, peint en 1654. L'écrivaine Donatarte n'écrit qu'un livre tous les 10 ans, sans reproche parce que ces 3 livres sont des merveilles, donc tous les 10 ans un livre. Nous y avons Le Maître des Illusions, Le Petit Copain, Le Chardonneret à lire avant d'aller voir le film qui n'est que la simple représentation d'un cinéaste. Devenez votre propre réalisateur. On finit notre émission en musique avec M, Retrouvez l'émission Mot de passe sur le podcast de notre site rtvfm.net. À bientôt pour la prochaine de Mot de passe.
De la grande illusion, à volonté c'est l'or, transformé en passion, qui n'oublie pas la voix, lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas, prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir, aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas, quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi, quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi.